France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Je crois qu'il y a quelque chose dans l'air.
Oh, excusez-moi, alors là j'ai un trou.
Il faut juste reboucher.
Eh ben oui, tu vois que c'est pas si simple.
Eh bien c'est ça mon petit gars, savoir créer une atmosphère.
Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Dans cette haute atmosphère se trouve l'ozone, une fine couche de quelques millimètres d'épaisseur qui nous protège des rayons ultraviolets. En 1985, les scientifiques découvrent qu'elle est meurtrie. C'est le fameux trou dans la couche d'ozone. En réalité, il s'agit plutôt d'un amincissement de cette couche déjà très fine au-dessus de l'Antarctique. Les coupables sont rapidement identifiés et seulement 2 ans après la découverte de ce trou, une réponse internationale inédite se met en place à travers le protocole de Montréal. Comment a-t-on compris si rapidement l'origine de cette destruction? Comment a-t-on abouti à cet accord international de grande ampleur? Comment la découverte du trou dans la couche d'ozone a-t-elle changé le monde? Et pour explorer cette histoire béante, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Godin-Beckmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne, directrice de recherche CNRS, directrice de l'Institut Pierre-Simon Laplace et ancienne présidente de la Commission internationale de l'ozone entre 2016 et 2024. Et en studio également, Régis Bridet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur associé au HT2S, le laboratoire Histoire des technosciences en société du CNAM, et auteur d'une thèse sur l'histoire scientifique et politique du trou dans la couche d'ozone et du changement climatique. On y viendra en toute fin d'émission. On commence avec une archive de 1956, une émission joliment nommée « Le royaume de l'air ».
Les physiciens ont en effet longtemps pensé que la composition de l'air devait varier très sensiblement en altitude. Les gaz les plus lourds, tels que l'azote et l'oxygène, étant prépondérants dans les basses couches, et les gaz légers, tels que l'hydrogène et l'hélium, devenant largement prédominants à haute altitude. Cependant, les acquisitions les plus récentes permettent de penser que jusqu'à une altitude relativement élevée, c'est-à-dire au voisinage de 100 km, la composition de l'air reste pratiquement inchangée. Il convient toutefois d'attirer l'attention sur l'accroissement de la quantité d'ozone, c'est-à-dire d'oxygène triatomique. Sa teneur atteint un maximum vers 35 km d'altitude et paraît liée à l'action des radiations ultracourtes du Soleil sur les molécules d'ozone. Mais les molécules d'ozone ainsi créées arrêtent la quasi-totalité de ce rayonnement ultraviolet, dont les effets nocifs sur les organismes vivants sont alors ainsi éliminés. L'ozone est ainsi indispensable à la vie humaine.
On entend une première présentation de ce qu'est l'ozone, 3 atomes d'oxygène situés sur une fine couche. Sophie Godin-Beckmann, est-ce que vous pouvez compléter finalement un petit peu cette carte d'identité qui a été présentée là, et peut-être en se disant où se trouve cette ozone ?
Oui, alors l'ozone est donc un élément atmosphérique composé de 3 atomes d'oxygène. Et il se trouve dans l'atmosphère, mais la couche d'ozone, c'est-à-dire la majorité de son abondance, 90% à peu près, se trouve dans la stratosphère, donc qui est une région atmosphérique située entre 10 et 50 km d'altitude à peu près. Donc en concentration, sa concentration maximale, c'est plutôt vers 20 km d'altitude, suivant les régions un peu plus haut tropiques. Et en rapport de mélange, c'est plutôt vers 30 km d'altitude.
Donc il y a une concentration à un endroit particulier. Mais on voit déjà que c'est un peu une moyenne. Est-ce qu'il y a une répartition globale qui est la même? Est-ce qu'elle change aussi au fur et à mesure des saisons? Est-ce qu'il y a des modifications finalement un peu de la hauteur de cette couche?
Oui, tout à fait. En fait, la stratosphère est plus haute au niveau des tropiques et donc la couche d'ozone est plus haute aussi au niveau des tropiques. Et les transports méridiens dans la stratosphère font que l'ozone qui est produit plutôt dans les tropiques est transporté ensuite vers les hautes latitudes, les moyennes et hautes latitudes. Et donc, on a finalement une concentration plus élevée d'ozone au niveau des hautes et moyennes latitudes par rapport aux tropiques. Donc, en fait, le contenu intégré d'ozone est plus élevé aux moyennes et hautes latitudes qu'aux tropiques.
Et un dernier petit point aussi, parce qu'on parle de stratosphère, il faut peut-être faire une distinction entre l'ozone stratosphérique dont on va parler en fait dans l'intégralité de cette émission, et puis l'ozone peut-être troposphérique qui est en fait un polluant.
Oui, tout à fait. En fait, l'ozone, même si c'est toujours la même molécule, a un rôle très différent suivant la région où il est situé. Donc, on considère que l'ozone situé dans la stratosphère, c'est le bon ozone, l'ozone protecteur, en fait, qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Et puis, l'ozone dans la troposphère, qui est en bien moindre quantité, à peu près 10%, en fait, il joue le rôle de gaz à effet de serre lorsqu'il est situé dans la haute troposphère, vers 10 km d'altitude, à peu près. Et puis, alors, après, il y a les phénomènes de pollution, où l'ozone est produit par les hydrocarbures, les émissions d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote. Et là, c'est ce qu'on appelle le smog ozone, c'est-à-dire les épisodes de pollution à l'ozone qui sont très problématiques pour la santé humaine, puisque l'ozone, en fait, au niveau du sol, c'est un oxydant très fort et donc il induit des problèmes de maladies pulmonaires, etc.
Et donc là, on va vraiment se placer dans la stratosphère. Et au niveau de justement cette protection des UV et ce rôle protecteur, comment finalement est-ce qu'on a découvert ce rôle, Régis Bridé? C'est d'abord peut-être un constat du fait que tous les ultraviolets qui arrivent sur la planète n'arrivent pas au sol, c'est ça?
Oui, alors ça c'est une histoire qui est pas très bien connue. En fait, l'histoire qu'on fait de la couche d'ozone, souvent c'est, ben d'abord c'est d'identifier l'ozone en tant que gaz. Donc ça date de 1839 avec Christian Schönbein. Et ensuite, des études plutôt donc spectrométriques hein, pour détecter l'ozone dans l'atmosphère. Donc là, c'est une histoire assez française d'ailleurs. Hein, Charles Fabry, Henri Buisson,
Marseillaise même.
C'est ça. Donc leurs mesures dans les années 1880, notamment à l'aide d'un interféromètre. Et puis, Léon Tesserec de Bort, en fait, va lui mettre en évidence que la couche d'ozone avait effectivement un effet d'absorption sur le rayonnement solaire. Alors, il ne parlait pas nécessairement des UV hein, de manière précise. Et c'est lui aussi qui a forgé le terme stratosphère qui s'est imposé au début du XXe siècle. Hein. Et c'est dans les décennies suivantes, en fait, que véritablement on va se poser la question de comment est-ce que se forme et se détruit l'ozone dans la moyenne atmosphère, hein, dans la stratosphère. Ça, on y reviendra, je pense, par la suite. Les UV, en fait, ont un effet réchauffant hein, sur la stratosphère, ce qui explique que la stratosphère, lorsqu'on monte en altitude, eh bien, elle est plus chaude en fait que la troposphère, ce qui en fait est assez contre-intuitif parce que
quand on monte
dans l'atmosphère, on a tendance effectivement à trouver de l'air plus froid. Et ensuite, lorsqu'on ressort de cette couche d'ozone, qu'on va plus haut, eh bien, de nouveau la température atmosphérique chute.
Et vous avez parlé justement de ce phénomène d'équilibre, de formation de l'ozone. Je pense que c'est assez crucial en fait pour comprendre finalement l'histoire de ce trou dans la couche d'ozone. Il y a de l'ozone qui se crée et qui se détruit naturellement. Il y a un processus de formation. Quel est ce processus, Sophie Gonin-Beckmann?
Oui, alors justement, comme l'a dit Régis, la stratosphère, c'est lié au fait que l'ozone absorbe le rayonnement UV. Et donc, c'est cette absorption du rayonnement UV qui fait qu'on a un gradient positif de température dans la stratosphère. Et c'est pour ça que cette région s'appelle la stratosphère, puisque c'est une région dans laquelle les mouvements verticaux sont contraints, enfin, sont limités, en fait. Et donc, c'est des strates, c'est des
couches,
en fait. Voilà, ça fait une couche. Et voilà. Et effectivement, l'ozone est toujours en équilibre, surtout au-dessus de 30 km, c'est une sorte ce qu'on appelle un équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'il est en permanence produit par le rayonnement solaire. Donc c'est le rayonnement UV sur l'oxygène moléculaire qui produit de l'ozone. Et puis il est en permanence détruit par ce qu'on appelle des cycles catalytiques qui font intervenir des composés qui sont beaucoup moins abondants que l'ozone. Et donc pourquoi on appelle ça des cycles catalytiques? C'est parce que les composés réactifs qui sont produits dans ces cycles, en fait, ils sont régénérés ensuite à l'issue d'un cycle et donc il peut y avoir des chaînes de réaction de l'ordre de 1000 à peu près. Et c'est pour ça que l'ozone, qui est quand même en quantité très faible, on a dit que c'était 90% dans la stratosphère, mais en fait 90% dans la stratosphère, c'est en fait 8 parties par million, c'est-à-dire 8 molécules par million de molécules d'air. Donc c'est bien moindre que le CO2 ou l'oxygène moléculaire, etc. Mais donc l'ozone qui est de l'ordre de 10^-6, donc parties par million, est contrôlé par des composés qui sont 1000 fois moins abondants que l'ozone. Donc c'est ça qui fait que finalement les activités humaines peuvent avoir une influence sur l'ozone parce que on est avec abondances tellement faibles que finalement, ce qui est émis par l'homme peut arriver rien. Jusque dans la stratosphère et finalement jouer un rôle, en fait.
Un rien peut tout faire basculer. Là, ces travaux sur la réactivité de l'ozone, finalement, ce sont les travaux de Chapman dans les années 30. Et finalement, c'est un partir seulement des années 70 qu'on commence à se poser la question justement des effets des activités humaines, et c'est ce qui déclenche un petit peu cette idée, en tout cas médiatiquement, ce sont une histoire d'avions supersoniques. Régis Bridé, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire et le débat en fait que ça a déclenché?
Ouais, alors le cycle de Chapman, effectivement, c'est une publication de 1930. Donc c'est vraiment le cycle de production-destruction de l'ozone de base, hein, que vous trouverez. Et ensuite, il y a toute une élaboration scientifique qui se fait au cours des décennies suivantes, avec une complexification de ce schéma théorique. Il y a toutes sortes de météorologistes, de géochimistes, et aussi des gens qui sont plus dans la modélisation, et notamment Paul Crutzen, qui va devenir un des grands théoriciens de l'ozone et qui aura d'ailleurs le prix Nobel avec Molina et Roland en 95. Et c'est lui le premier qui finalement se pose la question d'une éventuelle destruction de la couche d'ozone dans un papier de 1969. Ça, c'est une première chose. C'est important, mais alors lui, à l'époque, ne lance pas une alerte. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un danger. Voilà, il évoque effectivement la possibilité qu'il y ait une destruction de la couche d'ozone. Et effectivement, cette question de la destruction de la couche d'ozone, elle va vraiment émerger autour du développement des avions supersoniques aux États-Unis. Donc là, on a toute une histoire assez complexe qu'on pourra pas raconter intégralement tout de suite, mais ce qu'on peut simplement dire, c'est que la question se pose lorsqu'on a une flotte d'avions supersoniques qui va voler assez proche de la stratosphère et même en bas de la stratosphère, des impacts que ça va avoir sur la couche d'ozone. Donc là, on a différents. Le débat pour le coup se produit principalement aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a un développement de flottes supersoniques annoncé autour de 500 avions. Donc c'est important. C'est sans commune mesure avec ce qu'on est en train de faire en URSS et en Europe avec le Concorde à la même époque. Hein. Très bien. Donc, il y a toutes sortes de débats au Congrès des États-Unis en 1969, 1970, 1971. Et finalement, le projet de flotte, de développement de la flotte supersonique qui avait été lancé une décennie à peu près auparavant, elle va être abandonnée. Hein. Donc, le projet va être abandonné. Bon, il se trouve que lorsqu'on regarde les archives, on se rend compte que c'est principalement dû à des questions économiques. Hein. Mmh. Dans le même temps, au Congrès, on a vu des scientifiques venir témoigner, notamment James McDonald, et on a aussi une première publication d'Harold Johnston qui arrive à ce moment-là. Donc voilà, et on a aussi un chercheur de Boeing qui s'appelle Arsène Harrison qui lui aussi a travaillé sur ce sujet-là. Donc on a en fait quelques premiers travaux. Donc ce serait soit l'impact de la vapeur d'eau, soit l'impact des oxydes d'azote. Hein. Harold Johnston, il est très intéressant pour ça. C'est quelqu'un qui vient de la chimie troposphérique et donc qui connaît lui l'ozone par un autre biais et qui lui publie un article important en 71, mais sachant que voilà il y a différents scientifiques surtout qui sont auditionnés devant le Congrès des États-Unis, et c'est ça vraiment qui va vraiment amener ce sujet dans l'arène médiatique et aussi dans l'arène scientifique, parce que c'est ça vraiment qui va faire en sorte que aux États-Unis on crée des grands groupes d'experts sur l'ozone. Et ça, je pense que je vais pas le développer plus ici, mais pour dire que voilà, autour, disons, de cette question du développement des avions supersoniques, on a bien la question de la destruction de la couche d'ozone qui se pose à ce moment-là.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Donc il y a un abandon finalement de cette question des avions supersoniques, et comme vous l'avez dit, pour des raisons davantage finalement économiques que sur la couche d'ozone, mais ça braque quand même tout de même les projecteurs sur cette question de l'ozone et sur sa potentielle destruction, Sophie Godin-Beckmann. Il y a quand même une avancée, et là on commence à découvrir qu'il y a des travaux en fait qui commencent à émerger autour de 1974 sur cette question.
Oui, tout à fait, parce que en fait, la connaissance du cycle et de l'équilibre de l'ozone a été progressive. Et donc, au départ, il y a le cycle de Shackman qui fait intervenir que les composés oxygénés. Mais quand on fait des mesures d'ozone en altitude, on se rend compte que ce cycle ne permet pas d'expliquer la teneur d'ozone qu'on observe. Il modélise trop d'ozone, en fait. Et donc, il faut qu'on trouve d'autres mécanismes, d'autres constituants qui vont intervenir dans la perte de l'ozone pour compenser sa production. Et donc, on a effectivement les composés hydrogénés qui sont proposés dans les années 50, et en particulier par Harold Johnston, que Régis a mentionné. Et puis, le rôle de Crutzen, c'est de mettre en évidence le rôle des composés azotés. Et donc, on commence à affiner, en fait, cette connaissance chimie, sur et donc de mettre mieux en accord, finalement, la théorie avec les observations qui commencent à se multiplier, puisqu'on fait des mesures par radiosondage, etc. Donc, on commence à bien connaître la distribution verticale de l'ozone. Et donc, après la controverse sur les avions supersoniques, en fait, effectivement, ça a alerté les scientifiques qui ont commencé à se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres constituants qui pourrait finalement porter atteinte à la couche d'ozone. Et donc c'est là où interviennent deux publications. Une première publication par Stolarski et Cicerone qui disent que les composés chlorés aussi pourraient avoir jouer un rôle sur l'ozone, sur l'équilibre de l'ozone. Et puis après, il y a le papier de Roland et Molina qui, eux, mettent en évidence le rôle de composés spécifiques chlorés qui sont les chlorofluorocarbures. C'est la même année, en fait, en 1974, les deux papiers sont publiés. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, bon, bah là, il y a une problématique en liaison avec ces composés, et l'industrie commence à se poser des questions, ça revient sur l'arène médiatique, et donc c'est là où on commence à dire, bah, il va falloir supprimer l'utilisation de ces composés, et c'est là où on a commencé à dire, bon, bah, ces composés, on les utilise dans les aérosols, les bombes aérosols, donc on va essayer de les éliminer de ces bombes aérosols.
On va décrire ce que c'est les chlorofluorocarbures, donc on entend chlore, fluor, carbone, c'est important vu qu'on parle de chimie atmosphérique. Comment a été développé un petit peu ces CFC Régis Bridé? On entend qu'en fait il y a eu une utilisation massive, en fait, qu'ils aient été utilisés partout. Comment est-ce qu'on explique justement cette expansion de leur utilisation?
Oui, alors bon, l'invention des CFC, elle se fait initialement dans les laboratoires de Frigidaire, de l'industriel états-unien, et il se trouve que c'est un certain Thomas Migley Jr. Qui est l'un des inventeurs de ce composant. Il est assez célèbre. Alors c'est un peu souvent une plaisanterie autour de lui pour avoir à la fois inventer les CFC et avoir développé aussi l'essence au plomb. Donc c'est une sorte de bienfaiteur de l'humanité sans le savoir à l'époque, évidemment. Alors il se trouve que les CFC étaient assez ils n'étaient pas inflammables, ils étaient assez stables, ils n'étaient pas toxiques, et donc en fait on leur trouvait plein de qualités. Donc c'est pour ça que les CFC se sont imposés petit à petit dans différents secteurs, donc à commencer par donc la réfrigération, et puis aussi les bombes aérosols. On a utilisé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée, mais c'est principalement après-guerre, en fait, avec l'explosion de la consommation de masse des réfrigérateurs et puis de la climatisation, que vraiment on va avoir une très très grande expansion des CFC dans le monde, une production principalement d'ailleurs aux États-Unis, toujours. DuPont va être très très longtemps le principal producteur, DuPont de Nemours, le principal producteur de CFC dans le monde. Et donc on voit clairement des courbes qui, jusqu'au milieu des années 80, sont pratiquement exponentielle. En tout cas, augmente de manière importante.
Et parce qu'on peut dire justement qu'ils étaient utilisés comme propulseurs dans les aérosols, puis fabrication d'emballages, matériaux pour isolation et mousse, fluides de refroidissement donc dans les réfrigérateurs et climatiseurs, solvants dans les dégraissants, les nettoyants, diluants de mélange gazeux. En fait, on entend qu'il y a ces caractéristiques des CFC qui en font finalement des éléments très, très imposants et très importants et qui facilitent finalement la vie de tous les jours et l'expansion à ce moment-là, Sophie Godin-McMahon.
Oui, alors c'était considéré comme ce qu'on a dit les wonder chemicals, c'est des
merveilleux,
composés merveilleux parce que on pouvait leur trouver tout un tas d'applications et dans leur fabrication ils étaient extrêmement stables et donc ne causaient aucun danger. Donc ça c'est un point important pour l'industrie chimique, c'est de pouvoir produire sans qu'il y ait des explosions, etc. Enfin, la sécurité est extrêmement importante. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que après les premières alertes, donc on assiste quand même à un début de diminution de l'abondance de chlore dans la stratosphère à partir de 79 parce que on se dit que bon, faut quand même faire attention, etc. Et puis pendant ce temps-là, en fait, les scientifiques, ils continuent à raffiner leurs modèles et ils se rendent compte que finalement, l'influence des composés chlorés avec les connaissances de l'époque, elle est plutôt vers 40 km d'altitude. Donc là où il y a quand même relativement peu d'ozone. Et c'est pour ça que finalement, bon, bah, les conclusions font que des rapports de l'époque disent que oui, effectivement, il y aurait une diminution de la couche d'ozone, mais finalement, qui n'est pas si importante que ça. Voilà. Et donc, en fait, les industriels sont rassurés et ils reprennent leur production d'autant plus, quoi. Et donc, ça remonte après, jusque donc en 1985, où là, effectivement, il y a pas mal d'événements qui se produisent.
Lorsque vous vous aspergez de lac ou que sur la plage vous utilisez une bombe à bronzer, savez-vous que vous participez à la destruction de la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons du soleil en les filtrant ? Les aérosols, dont la vente s'est multipliée par millions ces dernières années, sont en effet un facteur important de pollution qui attaque cette couche protectrice. C'est pour étudier ce problème que les Américains ont lancé hier un satellite d'observation.
Voici ce satellite, il s'appelle SAGE. Il a été lancé depuis une base américaine de Virginie par la NASA. C'est le premier satellite capable de mesurer avec précision une partie essentielle de l'atmosphère de la Terre, la couche d'ozone. Cette couche d'ozone est située en gros vers 20-25 km d'altitude. Elle est très fragile et le satellite SAGE va mesurer son évolution et voir si elle diminue ou pas. Et aussi si des polluants comme les gaz qui propulsent les aérosols, les rejets des réacteurs d'avion ou encore les émanations de certains engrais azotés détruisent ou non cette couche vitale qui nous protège.
Une archive de l'INA de 1979 sur France 2. Alors, est-ce que c'est vraiment le premier satellite chargé d'étudier l'ozone ? Quels étaient un petit peu les développements au tout début des années 80 pour suivre effectivement cette ozone, Sophie Godin-McMahon ?
En fait, le premier instrument satellite qui a mesuré l'ozone, mais plutôt l'épaisseur de la couche d'ozone, c'est l'instrument TOMS. Sur le satellite Nimbus. Et SAGE, en fait, enfin SAGE, c'est un instrument qui mesure l'atmosphère, mais par visée au limbe, en fait. Donc ça permet de restituer le profil. Donc il est arrivé un peu après. Mais les premières images, en fait, de l'ozone ont été produites par l'instrument TOMS. On a toujours les mesures, en fait, de cet instrument.
Et c'est important de souligner peut-être les développements techniques qu'il y a eu à ce moment-là pour justement arriver à la découverte en 1985. Il y a eu, en fait, une émulation et énormément de recherches qui se faisaient, Régis Bridet, au moment, en fait, sur cette ozone.
Ouais, absolument. Bah, on a deux grandes institutions états-uniennes qui, à l'époque, se mettent sur la question de la destruction de l'ozone, qui sont la NASA et la NOAA.
NOAA, Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, pour donner le terme en entier.
Tout à fait. Et donc voilà. Alors, il y a deux manières de vous répondre. La première, c'est que oui, effectivement, il y a un développement au niveau satellitaire, mais ce sont pas les seules études de la NOAA et de la NASA hein, qui font aussi des études depuis le sol, avec des avions, etc., etc. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose qu'il faudra dire, mais on va y revenir, c'est que ce sont pas les mesures depuis les satellites qui vont produire le premier grand papier sur la destruction de l'ozone en Antarctique, qu'on a appelé donc le trou de la couche d'ozone.
Et qu'est-ce qui a permis justement dans ce papier de Joseph Charles Farman de pouvoir montrer qu'il y avait justement une déplétion au niveau de l'ozone, Sophie Godin-McMahon?
Alors ça, c'est effectivement très intéressant parce que en fait, il se trouve que l'ozone n'a pas été mesurée que par des satellites. Il y avait aussi des instruments au sol qui avaient été développés initialement par Dobson, donc c'est un scientifique anglais, qui a produit des spectromètres très similaires à ce qui avait été fait par Fabry et Buisson, mais lui, il l'a fait de façon plus facile à utiliser. Puis il a développé, il a mis des instruments un peu partout dans le monde, donc ça a permis de mieux connaître la science de l'ozone grâce au déploiement de ces instruments. Et il se trouve que donc en 1957, il y a eu l'année polaire internationale qui a incité Dobson à développer et à mettre un instrument pour mesurer l'ozone en Antarctique, parce qu'il voulait connaître la distribution méridienne de l'ozone, savoir comment l'ozone se comportait. Et donc le British Antarctic Survey continuait à faire ses mesures sur le long terme par pure curiosité scientifique, en fait.
En le mettant là, et en suivant.
Voilà, puis on suivait, il y avait des scientifiques qui suivaient l'évolution de l'ozone. Et à la fin des années 70, ces scientifiques, donc Farman, mais aussi Gardiner et Shanklin, qui ont travaillé ensemble, ont constaté qu'au mois d'octobre, ils observaient une quantité d'ozone de plus en plus faible, au-dessus de leur tête. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc, ils ont renvoyé leur instrument en Angleterre. Ils ont cru que c'était une erreur. Le scientifique dit, je vois ça, est-ce
d'abord,
que c'est
mon outil qui ne marche
qui fonctionne
pas.
Ou pas. Donc, alors ça a pris quelques temps, enfin, c'était beaucoup plus lent hein, à l'époque. D'abord, ils ont renvoyé leur instrument, l'instrument est revenu, et puis ils ont vu que le phénomène persistait, et c'est à ce moment-là que ce fameux article de Farman et al. A été publié dans Nature, où ils ont fait le lien en fait, entre ce qu'ils observaient en Antarctique et l'augmentation des composés chlorés dans l'atmosphère, sans en présenter la preuve. Mais donc, ils ont alerté à ce sujet.
Sans lien de causalité, mais ils suggèrent dans leur papier qu'il y a un lien justement entre la croissance du chlore inorganique, donc justement indirectement ces CFC, et justement cet amincissement, cette limitation en fait qu'ils observent à la moitié de l'hiver. Il y a cette année 85 qui est quand même très particulière parce qu'il y a la publication de Farman, il y a la sortie d'un rapport très complet de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, et il y a surtout la signature de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Régis Bridé, cette adoption de justement cette Convention de Vienne intervient le 22 mars 85. La publication de Farman date du 1er mai 85. Donc en fait, on signe cette convention avant la découverte du trou dans la couche d'ozone.
Ouais, absolument. En fait, comme toujours, hein, lorsque vous regardez comme ça une
histoire
environnementale, en fait, il y a plusieurs strates qui se superposent et il y a un processus politique qui est déjà en marche depuis quelque temps. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc il y a cette publication en 1974 sur les effets possibles des CFC sur la couche d'ozone. Alors Boislin et Molina sont vraiment deux chimistes de laboratoire. Hein. Donc, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que eux, en regardant la chimie théorique, a priori, il y a une possibilité qu'il y ait une destruction de l'ozone. Hein. Mais il n'y a pas de série de mesures de destruction de l'ozone dans la stratosphère à cette époque. Et c'est vraiment la publication de 85 qui est l'une des premières. Il y en a peut-être d'autres qui au même moment arrivent. Mais en tout cas, c'est vraiment celle-là qui aura le retentissement le plus important. La Convention de Vienne, il était prévu qu'elle soit signée de toute façon à l'époque parce qu'il y avait un processus de négociation qui avait été engagé entre les États. En 1978, les États-Unis ont réglementé une partie des bombes aérosols contenant du CFC, pas l'intégralité, hein, mais une partie significative. Certains pays également scandinaves et en fait, ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est que les États-Unis sont relativement moteurs à cette époque, mais quand même, il faut pas surévaluer ça. En 1978, lorsque les États-Unis réglementent les CFC dans les bombes à aérosols, ensuite il y a un coup d'arrêt. Il y a un temps où les industriels déjà sont pas très contents. Et puis il y a aussi tout un processus international qui est lancé avec des discussions donc diplomatiques, ce qui fait que il faut attendre 1985 pour qu'une convention soit signée, effectivement, qui n'a rien à voir avec le papier de Farman et ses collègues.
Comment a été découvert le lien de causalité entre disparition de l'ozone en Antarctique et CFC, et comment les réglementations vont-elles permettre de mieux contraindre leur usage? C'est la suite de notre programme juste après ça. Vas-y, viens,
on se Cécile Bonin, profession intermittente du spectacle. Petite chanteuse, galérienne, j'aurais mieux fait d'avoir mon bac. J'aurais mieux fait de faire du foot ou de postuler à la STAC. Maintenant je galère et dans le métro je chante au black. Je chante au blanc aussi, aux rebeux et aux asiates. Aux meufs, aux petits, aux gros et aux cul-de-jatte. Tout ce qui traîne, j'en mets plein les oreilles. Je croque mes chansonnettes pour gagner un peu d'oseille. Mais c'est la crise. C'est pas Byzance, c'est pas super. Ça va pas redresser mes finances, mais j'y crois dur comme fer. Un jour j'aurai ma chance, à votre bon cœur, monsieur, dame, avant que le refrain recommence.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, atmosphère.
Y'a plus rien dans le frigidaire.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, l'atmosphère.
Tu la sens, atmosphère.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, l'atmosphère.
Dans mes poches, c'est le courant d'air.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, l'atmosphère.
Tu la sens, atmosphère. M'attirer, même pas de quoi prendre le métro, même pas de quoi faire ma valise, de me casser un macaro. Même les charters sont complets pour Bamako et je flippe à cause de la grippe de Mexico. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Pourquoi dans mon larfeuille y a jamais de pognon? Pourquoi c'est bizarre, c'est chelou dans les hautes sphères? Pourquoi dans ma rue et dans mes poches c'est la misère?
Pas dit ça, ma sœur.
Non, là je suis en galère, je suis sur la paille, je suis même à découvert. Ces salauds m'ont aspiré ma carte bancaire, les crevards. Trop de gens qui manquent pas d'air, peut-être qu'un jour ils nous feront payer l'atmosphère. À quand les expulsions de la planète Terre?
J'ai plus d'oxygène, je suffoque et j'ai plus d'air.
À votre bon cœur, monsieur, dame.
Tralali, la, 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 atmosphère, atmosphère, tu la sens, atmosphère.
Y'a plus rien dans le frigidaire.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, l'atmosphère.
Tu la sens, atmosphère.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, atmosphère.
Dans mes poches, c'est le courant d'air.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, atmosphère.
Tu la sens, atmosphère. Je te chante du rêve, si tu me files de la mitraille, je te chante l'amour. Si tu me lâches un peu de ferraille, un peu de pépette, et je te ferai tourner la tête. Dans mes rêves, on m'appelle Cécile, la petite vedette, la petite rappeuse. La madone du métro retient mon blaze. La diva du ghetto, j'ai l'air barjou avec mon look de clodo. Mais je te jure, je peux te chanter du clo-clo ou du Renault. Faut bien que je graille, que je remplisse mon frigo, que je fasse tourner la popote. Chanter, c'est mon boulot, je suis un jukebox. Tu veux entendre mon répertoire? Glisse une pièce ou tu vas voir ce que tu vas voir.
Atmosphère, atmosphère, tu la sens, atmosphère.
Y'a plus rien dans le frigidaire.
Atmosphère,
atmosphère de Carrie Mouche sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui l'histoire du trou dans la couche d'ozone en compagnie de Sophie Godin-Beckmann, physicienne, directrice de recherche CNRS, directrice de l'Institut Pierre-Simon Laplace et ancienne présidente de la Commission internationale de l'ozone entre 2016 et 2024, et également de Régis Bridé, historien et chercheur associé au HT2S, le laboratoire Histoire, Technosciences en Société du CNAM, et auteur d'une thèse sur l'histoire scientifique et politique du trou dans la couche d'ozone et du changement climatique.
On peut détruire l'ozone, en particulier on a beaucoup parlé de l'émission des produits chlorofluorés et on peut se poser la question, est-ce que l'activité humaine a fini par détruire la couche d'ozone dans cette zone polaire ? Au-dessus des pôles, des observations du sol avaient déjà été faites vers 76 degrés sud, une décroissance en particulier pendant le printemps dans cette zone. Et pour l'instant, il n'est pas du tout évident de savoir si cette décroissance est liée à l'activité humaine ou si elle est simplement due à un mécanisme naturel, due à ces conditions particulières dans ces régions, le froid, la nuit polaire, la turbulence.
Vous trouvez donc l'affaire de l'Antarctique très inquiétante ?
Non, il n'est pas... possible de répondre pour l'instant. Il faut remesurer, confirmer et modéliser de façon à voir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou s'il s'agit de quelque chose qui est effectivement un avertissement dû aux activités humaines et qui amènerait à réduire beaucoup la production des produits fluorés en particulier. Mais il est beaucoup trop tôt pour répondre à cela.
Une archive sur France Inter. Nous sommes en août 1986, interactualité de 13h, avec l'interview d'une ingénieure de l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, l'ONERA. Et on entend finalement un petit peu la réserve encore sur les liens de causalité. On sait qu'en science, les liens de causalité sont difficiles à établir. Qu'est-ce qui a permis de faire avancer justement pour comprendre ce lien entre disparition de l'ozone et les responsables, en fait, les CFC, Sophie Godin-Bachmann?
Oui, en fait, ça a été très très rapide. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées, dont celle de la responsabilité des composés chlorés. Et pour essayer de comprendre ça, en fait, la NASA a organisé une grande campagne de mesures avec donc des instruments pouvant mesurer à la fois l'ozone et les composés chlorés, le monoxyde de chlore en particulier, qu'ils ont mis dans un avion qui peut voler à 20 km d'altitude à peu près. C'est ce qu'on appelait les avions espions, les U2 qui sont devenus les ER2. Voilà. Donc ils ont mis ces instruments dans cet avion. Cet avion est parti du sud du Chili, Punta Arenas, et il a volé en direction de l'Antarctique. Et donc il faut savoir aussi qu'en Antarctique, en hiver, les masses d'air sont isolées par ce qu'on appelle le vortex polaire. Donc l'avion a volé en direction du vortex polaire. Et ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est que quand il volait au mois d'août, l'ozone, les quantités d'ozone restaient relativement stables, mais les quantités de monoxyde de chlore étaient extrêmement élevées à partir du moment où on rentrait dans le vortex polaire. Et lorsqu'ils ont refait le vol au mois de septembre, ils ont pu mettre en évidence que quand on rentrait dans le vortex polaire, en fait, l'ozone diminuait de façon drastique et en corrélation avec l'augmentation du monoxyde de chlore. Et donc là, ça a vraiment été une preuve irréfutable de l'influence des composés chlorés sur l'ozone. Et les autres hypothèses ont été balayées par ces mesures. Ça a été vraiment la campagne qui a constitué la preuve du rôle des composés chlorés sur l'ozone.
Ce qui est important aussi sur cette spécificité en Antarctique, c'est la compréhension de la chimie des nuages en fait stratosphériques, Régis Bridé. Il y a une importance justement d'avoir une connaissance fine de ce qui se passe justement à cet endroit-là.
Juste pour revenir sur cette campagne de mesure dont parlait Sophie, elle a lieu en octobre-novembre 1987, donc juste après la signature du protocole de Montréal sur laquelle on va revenir. Auparavant, il y avait une autre campagne de mesure importante en Antarctique, dirigée par Susan Solomon, où là, il y avait des mesures des oxydes de chlore qui avaient été faits et il avait été constaté qu'ils étaient 100 fois plus importants que ce qui était prévu, à peu près. Donc ça, c'était encore dans le faisceau d'indices qui s'accumule à cette époque, quelque chose qui venait encore, finalement, alimenter, là, pour le coup, les négociations du protocole de Montréal. Hein, dès lors qu'on a signé la convention de Vienne en 1985, l'idée de signer ensuite un protocole, elle est logique hein, finalement. Hein, c'est finalement le processus classique hein, de gouvernance environnementale. Donc il y a cette campagne de mesure, mais il y a aussi la production des images du trou de la couche d'ozone qui sont importantes. On a dit tout à l'heure que la NASA finalement n'avait pas vu le trou de la couche d'ozone alors qu'elle l'avait mesuré parce que son algorithme l'avait qualifié d'aberrant absolument, mais dans la foulée de la publication de l'article de Farman et ses collègues en 85, Stolarski et d'autres à la NASA refont les calculs, reprennent les séries de données des satellites et se rendent compte qu'effectivement c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été mesuré par ailleurs grâce au spectrophotomètre au sol à Alébé par Farman et ses collègues. Et ce qui est peut-être encore plus important sur un plan politique, c'est la production des images du trou de la couche d'ozone.
Parce qu'elles sont très, très nettes, en fait, il faudrait les avoir sous les yeux, mais on voit cette déplétion sous la forme bleutée, donc tout est colorisé évidemment, mais on voit vraiment un trou. Et c'est peut-être pour ça qu'on a gardé ce terme de trou dans la couche d'ozone, parce que ces images-là montrent un trou, alors que le réel terme, c'est amincissement de la couche d'ozone.
Ouais, absolument. Et ce qu'on a retrouvé, nous, dans les archives avec Sébastien Grevesmühl, on a travaillé un peu sur les archives de cette époque, donc entre 1985 et 1987, pour voir à quel moment ces images étaient produites. On retrouve déjà dans le rapport que vous évoquiez tout à l'heure, le rapport de 1985, qui est en fait publié en 1986, donc le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, on retrouve déjà des séquences. Des séquences de destruction de l'ozone
en fonction des mois, vous voulez dire
voilà
la saisonnalité
sur une séquence temporelle. On a trouvé ces images là mais en tout cas c'est par la suite effectivement qu'on va les retrouver plutôt en 1986 diffusées. En ce qui concerne le trou de la couche d'ozone, en tout cas en tant qu'image seule, on trouve ça dans les médias très rapidement, en fait, dans le New York Times dès 1985. Donc, en fait, médiatiquement, déjà, le trou de la couche d'ozone émerge à ce moment-là. Et puis ensuite, effectivement, la NASA va produire plein de séries de destruction de l'ozone, cette fois sur une échelle de temps. Et là, c'est beaucoup plus parlant parce qu'on nous explique qu'en fait, il y a une diminution de l'ozone d'une année à l'autre. Et voilà, ce sont vraiment ces images qui sont importantes et qui vont effectivement être présentes dans les négociations du protocole de Montréal. Donc l'éléphant, finalement, est dans la pièce, même si, par ailleurs, les scientifiques vont toujours se défendre d'avoir dit avec certitude pendant cette période-là que le trou de la couche d'ozone était certifié, et était surtout ce qui était certifié, ce qui sera certifié par la suite, c'était son origine anthropique. Hein, c'est vraiment ça qui est important.
Un voilà. Petit point justement.
Peut-être précise. Oui, peut-être aller un peu vite.
Justement, ouais. un petit point de chimie atmosphérique. Je vous laisse peut-être répondre à ça, mais surtout comprendre quelle réaction finalement se fait. Pourquoi, comment, en chimie, en fait, les CFC détruisent finalement la couche d'ozone,
Sophie? Oui, je pense qu'il faut reprendre un peu. Alors, déjà, sur la question du trou dans la couche d'ozone, effectivement, ça a eu un retentissement médiatique important, mais aussi dans la communauté scientifique, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, cet amincissement de l'ozone, il occupait une surface extrêmement importante, en fait, hein, pratiquement la moitié
de l'Europe.
La moitié du continent antarctique, qui est de 15 millions de kilomètres carrés. Donc, pour un physicien de l'atmosphère, c'est un signal énorme. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que là, il y avait une destruction massive de l'ozone et à l'endroit où il y a vraiment la couche d'ozone. Et donc, c'est là où intervient des scientifiques comme Susan Solomon, parce que pour essayer d'expliquer pourquoi les CFC et les chlores pouvaient atteindre l'ozone dans cette région de l'Antarctique, il fallait bien avoir un mécanisme. Et le fameux rapport dont on a parlé,
de l'OMM,
qui est paru en 1985, en fait, ne parlait de la chimie de l'ozone que ce qu'on appelle en phase gazeuse, c'est-à-dire que toutes les réactions se faisaient en phase gazeuse. Et Susan Solomon a été l'une des premières à dire que, en fait, il pouvait y avoir des réactions qui se produisent à la surface des particules de nuages qui se forment en Antarctique. Et il faut savoir aussi que la stratosphère étant très sèche, la stratosphère hivernale en Antarctique est la seule région où des nuages se forme
dans la stratosphère.
Voilà. Donc donc à la surface des particules de ces nuages, elle a proposé qu'il y ait en fait des réactions qui finalement fassent que les composés qui sont relativement peu réactifs sur l'ozone soient absorbés sur les particules, et que ces réactions libèrent en fait des composés chlorés, du chlore, juste l'atome de chlore, et c'est ce qu'on appelle le processus d'activation des chlores que l'on observe en hiver. Et donc c'est pour ça, tout à l'heure je disais que lorsque l'avion avait volé en hiver, eh bien on voyait une augmentation du monoxyde de chlore, c'est parce que ces atomes de chlore qui sont libérés, ils réagissent avec l'oxygène pour ensuite former du monoxyde de chlore. Et ensuite, ce monoxyde de chlore, finalement, va entrer dans des cycles de réactions chimiques catalytiques très rapides dès l'apparition du soleil, et qui vont ensuite détruire l'ozone au rythme de plusieurs pourcents par jour. Donc, ce qu'on a pu observer au fur et à mesure du temps, c'est que finalement, dans la région où l'ozone est maximale, c'est-à-dire la couche d'ozone, en fait, l'ozone est totalement détruit sur à peu près 4 km d'épaisseur. Il n'y a plus d'ozone, en fait. Et c'est ça, en fait, la destruction du couche d'ozone. Donc, ce n'est pas le trou, il n'y a pas un trou complet, il y a un amincissement, mais la diminution est de l'ordre de 50% de la couche d'ozone sur des millions de kilomètres carrés.
Donc la diminution est massive. Il y a un acteur, en fait, plusieurs acteurs dont on n'a pas encore parlé, c'est la position des industries, finalement. Quelle est la position des industries face à l'ensemble de ces travaux et puis face, finalement, à ce qui est en train de se profiler? Parce que, comme vous l'expliquiez, Régis Bridé, il y a eu un protocole, il y a eu une convention, il y aura un protocole, et donc, du coup, il se passe quelque chose. Est-ce qu'ils ont participé, en fait, indirectement à ces recherches?
Oui, alors il y a d'abord la première réaction des industriels dans les années 70 aux États-Unis, et c'est bien là principalement que la question se pose, parce que les principaux producteurs, les principaux consommateurs de CFC et d'autres substances destructrices d'ozone se trouvent aux États-Unis. Leur première réaction, c'est quand même d'essayer de minimiser le risque avec des campagnes qui sont faites. Moi, j'en ai vu par exemple dans le New Scientist,
de lobbying et de
lobbying
de la même manière
et carrément des encarts que vous trouvez dans les journaux où on explique aux consommateurs que il faut pas s'inquiéter. Cela dit, je veux pas être manichéen, c'est-à-dire qu'il y a bien à l'époque une science de l'ozone qui est en train de se mettre en place avec des grands comités de scientifiques qui sont en train de se mettre en place, et donc ce sont bien ces comités scientifiques qui vont finalement attester de la pertinence en fait de l'hypothèse de Roland et Molina dont on a parlé tout à l'heure, et même les industriels qui vont créer en fait des groupes, notamment il y a un groupe IMOS sous l'impulsion de l'administration Ford, qui est en fait un groupe public privé qui en 75 va publier un rapport qui va être assez clair sur le fait qu'il y a effectivement un danger.
C'est intéressant de voir justement la participation des industriels à
absolument.
La recherche scientifique et absolument. À ce moment-là, au moment où on voit justement la comparaison avec l'industrie du tabac. Et justement, le lobbying qui est fait, en fait, qui a été fait juste avant. Donc, il y a vraiment une particularité de cette histoire par rapport aux autres.
C'est complexe, comme je disais, c'est-à-dire que tous les industriels n'ont pas la même réaction. Et en 1978, lorsque donc on interdit une partie des bombes à aérosol aux États-Unis, il y a beaucoup d'industriels qui sont encore très opposés à cette mesure. Ok. Ensuite, on a effectivement une mise en route un petit peu plus lente de production d'expertise à partir de la fin des années 70. Et là, effectivement, on a des chercheurs, et notamment des chercheurs de Dupont de Nemours qui vont développer.
Dupont de Nemours, peut-être pour l'expliquer, c'est le principal producteur de CFC à ce moment-là.
Absolument. Et donc le grand industriel de la chimie, et il y a quelques chercheurs de Dupont de Nemours qui développent un modèle numérique. Et en fait, les résultats qu'ils vont obtenir sont assez proches de ceux de la recherche publique. Et on va retrouver notamment certains McFarland dans les comités d'expertise internationaux sur l'ozone très longtemps, jusque dans les années 2010. Moi, je l'ai croisé. Il y a eu une collaboration. Et l'autre collaboration qui est intéressante, outre celle-là autour des modèles numériques stratosphériques, ça va être autour du développement des substituts au CFC, bien sûr. Et là, il y a tout un travail aussi de l'Agence environnementale de protection de l'environnement, pardon, aux États-Unis, l'EPA, qui va chercher à stimuler au maximum ce développement de substituts.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
On en arrive justement au protocole de Montréal, le véritable accord qui va justement aboutir à l'interdiction en fait de ces CFC. Cette signature a lieu en septembre 87. Donc comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure, tout était finalement assez prêt, assez préparé avec la Convention de Vienne, Sophie Godin-Meckmann, pour que tout soit signé et que cette fois peut-être l'accord soit finalement plus contraignant. Là, l'objectif c'est de réduire et à terme éliminer tous les CFC. C'est clairement exposé.
Oui, tout à fait. En fait, comme c'était dans l'air, enfin, c'était pas complètement établi avec certitude, mais il y avait les résultats scientifiques qui commençaient à sortir des campagnes.
Et s'accumulait un faisceau d'indices, en fait.
Tout ce faisceau d'indices pointait sur la responsabilité des CFC. Et donc, la qualité du protocole de Montréal, et c'est pour ça maintenant qu'on le considère comme le protocole le plus, qui a le plus de succès, c'est parce que, en fait, c'est un protocole qui a été considéré dès le départ comme piloté par la science. On dit science-driven protocol, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'il fallait commencer la réglementation des CFC, mais que finalement il fallait continuer les activités scientifiques pour essayer de comprendre un peu mieux les processus et voir si éventuellement on pouvait réviser ce protocole. Et donc, il stipulait aussi qu'il fallait tous les 4 ans faire un rapport sur l'évaluation de l'état de la couche d'ozone. Donc, ces rapports, le premier rapport est paru en 1990 et il y a le prochain rapport qui va paraître en 2026. Et il stipulait aussi qu'il devait y avoir une responsabilité différenciée entre les pays qui sont responsables du problème, hein, les pays développés, en particulier les États-Unis, et les pays en voie de développement qui, eux, ne sont pas responsables. Et donc, le protocole a été signé le 16 septembre 1987, mais il est rentré en vigueur en janvier 1989.
Mais quand même, tout de même assez rapidement, vous mentionnez ce fait qu'il y ait en fait finalement 2 vitesses entre pays développés et pays en développement. C'est une particularité, ça, Régis Bridet, justement, de peut-être qui explique ce succès, cette force. Vous parliez à l'instant finalement des solutions de secours qui ont été découvertes. Il y avait aussi, j'ai cru comprendre, un enjeu et une forme d'obligation pour les industriels de fournir gracieusement des solution pour remplacer les CFC.
Qu'est-ce que vous entendez par gracieusement ?
Gratuitement. En fait, il y a eu, il me semble, un transfert technologique,
ouais.
Justement des pays développés pour les pays en voie de développement.
D'accord.
Justement pour pouvoir accompagner en fait cette transition.
Oui, absolument. Bah, il y a eu différents mécanismes. D'abord, au sein des pays développés ou disons industrialisés, on dit plutôt aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y a eu effectivement des transferts d'argent. Hein, et notamment, Margaret Thatcher a été pas mal active là-dedans sur l'implication des pays en développement. Mais on est aussi à un moment où la Chine est en train d'émerger en tant que grande puissance. Et la Chine va devenir, bien sûr, je dis bien sûr, mais la principale productrice de CFC et ensuite des substituts par la suite. Hein, il y a quelque chose d'assez logique là-dedans. On a aussi dans le même temps la gouvernance du changement climatique qui se crée juste après finalement la gouvernance de l'ozone et sur le modèle de la gouvernance de l'ozone. Alors il y a 2 manières de le voir, soit c'est sur le modèle 2, soit on considère que c'est en même temps qu'on a réfléchi aux deux en vérité, hein, c'est un peu plutôt comme ça que ça s'est passé. Et donc effectivement avec ce modèle différencié où il y a le groupe des pays industrialisés qui vont pouvoir eux sortir rapidement de ces technologies qui sont parce qu'ils ont les moyens de développer des substituts rapidement et puis les autres pays qui pourront ensuite prendre finalement également cette charge là de sortir des CFC
et en bénéficier
voilà, je sais pas.
Et les recherches sont pas stoppées pour autant parce que là on se trouve en 87, 89 si on compte vraiment l'adoption, mais on continue en fait à l'heure actuelle de suivre en fait donc entre 87 et maintenant de suivre justement l'ozone en fait et sa déplétion. À partir de quel moment on voit une stabilisation en fait de ce trou de la couche d'ozone, parce que j'imagine que les effets des CFC ont continué à se faire ressentir parce qu'on a continué finalement à en émettre. Sophie Godin-Meckmann.
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur le protocole de Montréal, en fait, un élément important aussi a été la constitution d'un fonds multilatéral de financement, en fait, de ce transfert de technologie.
Donc l'industrie chimique américaine a pu y trouver un avantage aussi. Maintenant, ce fonds est de l'ordre de 4 milliards cumulés, de 4 milliards de dollars. Donc il y a eu quand même beaucoup d'argent investi. Et finalement, il y a eu, comme c'était un protocole piloté par la science, il y a eu plusieurs amendements qui ont permis de contraindre, enfin de durcir en fait la réglementation des CFC. Et il se trouve que dans les pays industrialisés, ils sont interdits depuis 1996, et dans les pays de l'article 5 du protocole, donc en voie de développement, depuis 2010. Donc, comme ces CFC constituent la majeure partie de l'émission des composés chlorés, on a pu assister à la fin des années 1990, début des années 2000, au pic, en fait, de l'abondance d'émissions de ces composés chlorés. Dans la stratosphère, pas de l'émission,
pas l'émission
d'abondance, parce qu'il y a un temps de retard.
De la concentration.
Voilà. Et donc, l'ozone a tout de suite réagi, c'est-à-dire qu'on peut voir effectivement sur les courbes d'évolution de l'ozone dans la stratosphère, on voit cette destruction d'ozone qui est variable suivant les régions, avec très importante en Antarctique au printemps, moins importante dans les moyennes latitudes, mais quand même de quelques pourcents. Et puis, cette destruction, en fait, se stabilise à la fin des années 90 et au début des années 2000 et reste stabilisée. Et là, maintenant, toutes les recherches portent sur le fait de voir l'augmentation de l'ozone directement liée à la diminution des composés chlorés dans la stratosphère. Parce qu'en fait, il y a une variabilité climatique et donc il faut que le signal soit vraiment lié et qu'on puisse attribuer en fait l'augmentation de l'ozone à la diminution des composés chlorés dans la stratosphère.
Et donc selon les projections, on devrait revenir au taux d'ozone des années 80 dans les années 2030 et dans les années 2050 aux moyennes latitudes et en 2060 pour l'Antarctique. Donc c'est vraiment la date finalement de rebouchage complet en fait de ce trou. Un mot finalement, on arrive en toute fin d'émission, je voudrais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui a fait finalement ce succès environnemental? Et on peut parler également de la question du changement climatique. Pourquoi le transfert en fait simple, pur et simple de ce qui s'est passé n'est pas aisé, Sophie Godin-McMahon?
Pourquoi est-ce que on pense que le protocole de Montréal a été si rempli de succès par rapport à la problématique du changement climatique? D'abord, il faut savoir que cette production de produits fluorés, chlorés, c'est pour une certaine type d'application.
Et très en fait, précise,
voilà,
précise.
Et qui s'est développé au fur et à mesure, mais Dupont de Nemours, il avait tout un tas d'autres applications de chimie, d'applications de production de composés chimiques pour tout un tas d'autres applications industrielles.
Et donc, pas son finalement, commerce uniquement,
ce donc n'était pas son cœur total de métier.
Enfin, c'est-à-dire que quelques pourcents en voilà, fait, de ses bénéfices.
De ses bénéfices. Donc, finalement, ils ont pu considérer que le fait de produire des substituts, surtout compte tenu du fait qu'ils pouvaient garder un avantage compétitif, ça pouvait être avantageux pour eux. Et ça ne mettait pas en péril leur industrie. Alors que dans le cas du changement climatique, en fait, les industries qui sont principalement émettrices de dioxyde de carbone, c'est les industries pétrolières, enfin c'est leur cœur de métier. Donc ça veut dire que si on leur dit, vous arrêtez de produire du pétrole, vous arrêtez de produire du charbon, et ces industries, elles vont mettre la clé sous la porte. Et en plus, le changement climatique, ça irrigue toutes nos activités. Là, il se trouve que dans le cas c'est la réfrigération, la climatisation, mais ça n'irrigue pas toutes nos activités, nos transports, l'agriculture, etc. Donc, le changement climatique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que la problématique de l'ozone.
Même question et dernière question, Régis Bridé, sur ce qui fait finalement ce succès environnemental hors norme et son impossibilité à le calquer justement et à le reproduire pour le changement climatique. Large question.
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, mais effectivement, il y a des éléments intéressants quand même dans ce qu'on a documenté. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la question de l'ozone, elle s'est construite plutôt sur une petite communauté avec beaucoup de scientifiques là-dedans, aussi des diplomates, etc. Et ça, c'est une première chose, c'est que ça a assez bien fonctionné. Il y a une communauté épistémique écologique comme la appelé Peter Haas, qui a vraiment poussé cette adoption du protocole de Montréal. L'autre chose aussi, on n'a pas tellement pris le temps d'insister là-dessus, c'est en fait le caractère environnemental précis du trou de la couche d'ozone, où on affecte les individus immédiatement, hein, avec des conséquences sur la santé qui sont immédiates, sur l'individu.
Conséquences de l'UV, en fait.
Voilà,
finalement.
De l'UV, avec des cancers de la peau, des choses qui sont plus tangibles, plus immédiates que la question du changement climatique. En tout cas, là où je pense qu'il faut réfléchir à partir de l'ozone, c'est de dire que la diplomatie internationale est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas la laisser tomber sur le changement climatique parce qu'elle peut avoir des effets massifs et c'est vraiment important, voilà, de la préserver, de la réencourager aujourd'hui qu'elle est à un moment où elle s'essouffle.
Merci beaucoup à vous deux, Régis Bridé, Sophie Gonin-Beckmann, d'être venus nous raconter cette découverte. Merci à Loïc Dutoit à la préparation de cette émission, Sam Bakiast à la réalisation. Et aujourd'hui, c'était Dalia à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Et on se quitte en musique avec David Bowie, Something in the Air.
Your coat and hat are gone. I really can't look at your little empty shell. A ragged teddy bear. It feels like we never had a chance. Don't look me in the eye. We lay in each other's arms. Just an empty space. I guess we lived it out. Something in the air. We smile too fast and can't think of a thing to say. Live with the best times. Live with the worst. Dancing with you too long. Nothing left to say. Let's take what we can. I know you hold your head up high. We've raced for the last time. A place of no return. And there's something in the air. Something in my head. I've danced with you too long. Yeah. Something in the air. Something in my head. I've danced with you too.